Vraiment content de prêcher ce matin, d'être avec vous. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi les actualités mondiales chrétiennes dernièrement. Peut-être que vous avez entendu parler d'un réveil qui prend place à Ashbury. Et il y a des gens qui étaient, on dirait. Il y a des gens qui étaient là, on dirait. Et c'est beau de voir ce que le Seigneur fait partout dans le monde, des gens qui s'approchent de Dieu, qui louent le Seigneur, qui ont soif de plus de Dieu. Et ce matin, le titre de mon message, c'est vraiment dans cette lignée-là, c'est « Soif de réveil ». Et est-ce que vous avez soif de Dieu ce matin? Est-ce que vous êtes un chrétien assoiffé de Jésus? Est-ce que vous êtes rendu dans votre vie chrétienne à un point où tout est habituel, routinier, où vous faites vos petites affaires, vous vous impliquez, vous donnez, vous faites ce que vous avez à faire, mais vous avez perdu peut-être cette flamme-là, vous avez peut-être perdu ce feu en dedans. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment ensemble et sonder notre cœur devant le Seigneur, qu'on puisse ensemble venir tous devant Dieu et dire, « Mon Dieu, j'en suis où dans ma passion pour toi? J'en suis où dans mon feu, dans ma louange, dans mon adoration, dans ma vie de prière, dans ma vie chrétienne? » Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur puisse raviver en nous une passion, raviver en nous une action nouvelle, puissante. Vous savez, les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Et ce que Dieu a fait hier, c'est extraordinaire, mais Dieu veut agir aujourd'hui. Dieu veut faire quelque chose dans ton cœur. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Alors ce matin, je t'invite avec moi à ouvrir ton cœur. Je pourrais pas dire tout ce qu'il y a à dire par rapport au réveil spirituel dans la Bible. C'est-à-dire que la Bible est remplie de moments d'actions spontanées et puissantes de Dieu où on a vu des réveils spirituels, on a vu Dieu agir dans des nations qui se sont repenties. On peut penser à Ninive, entre autres, qui s'est repentie en bloc, qui s'est tournée vers Dieu. On pense à dans Acte 2 avec la naissance de l'Église, l'effusion du Saint-Esprit, plein d'endroits dans la parole de Dieu, autant dans le Nouveau Testament que l'Ancien Testament, où on voit Dieu qui agit de façon puissante. Et ce que je crois, c'est que Dieu veut encore agir parmi nous aujourd'hui. Quelques éléments, on va voir quelques éléments sur c'est quoi un réveil biblique. Qu'est-ce qui se passe dans la Bible quand Jésus touche une nation, quand Jésus touche une église, quand Jésus touche une personne? Petite définition pour réveil spirituel. Pris sur une place très, 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 très pro qui s'appelle Wikipédia. Ça dit, le réveil chrétien ou Christian Revival ou réveil spirituel est un mouvement social et culturel de renouvellement spirituel visant à réveiller une foi qui est assoupie, installée et routinière. On peut dire aussi que c'est un groupe de personnes qui viennent ou reviennent à Dieu avec un cœur entier et fervent. Et un réveil, c'est un mouvement qui est initié par Dieu. Hein? Dieu veut faire des réveils. Dieu veut réveiller son Église. Dieu veut toucher les chrétiens. Et c'est, le problème, c'est pas que Dieu le fait ou le fait pas. Le problème, c'est notre réponse souvent. C'est comment on réagit à ce que Dieu fait. Est-ce que notre cœur est sensible? Est-ce que notre cœur est prêt à répondre à ce que Dieu veut faire? Et juste avant d'entrer dans mes quelques points ce matin sur des éléments sur à quoi ça ressemble un réveil spirituel, bibliquement, quelques petites pistes de réflexion, quelques petites pensées rapidement en rafale par rapport au réveil. Tout d'abord, attention à la phrase qui dit « quand le réveil viendra ». Depuis, ça fait maintenant longtemps que je suis chrétien et j'ai rencontré des gens, c'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai rencontré des gens qui disent cette phrase souvent, « Quand le réveil va venir? Quand le réveil va venir? » Mais ça fait 20 ans qu'ils sont, ou plus, qu'ils sont un petit groupe et qu'ils ne sont pas tournés vers les autres et qu'ils n'ont pas de vie de prière. Et quand le réveil viendra? Le réveil, c'est pas juste quelque chose qui arrive. Hein? Dieu veut faire un réveil en tout temps. Dieu veut agir en tout temps. Moi, ce que je vous invite à faire ce matin, c'est à ouvrir votre cœur et à dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Seigneur, ce n'est pas juste quand tu vas agir à un moment donné. Tu agis aujourd'hui partout dans le monde. Et Seigneur, je veux que tu agisses dans mon cœur, dans ma vie. » Je vous invite également à fixer nos yeux sur le Dieu du réveil et non sur le réveil lui-même. Parfois, on a cette tendance-là à analyser, à voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce qui arrive. Et rappelez-vous qu'un réveil authentique, c'est qu'on capote sur Jésus. C'est qu'on tripe sur Dieu. c'est qu'on l'aime de façon totale. Il est le centre des réveils spirituels authentiques. Pas une manifestation, pas une affaire, pas un ci, pas un ça. Dieu, Jésus est le centre. Est-ce que je peux entendre un amen? OK, merci pour ce beau amen. Attention aussi à ce que la nostalgie du passé glorieux ne nous vole pas des bénédictions présentes et à venir. À ça aussi, j'ai vu ça. Ah, dans le temps, le Seigneur a agi, c'était incroyable, nanana. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie, le Seigneur? Oui, mais demain, qu'est-ce que tu espères pour demain? Hein? Ne devenons pas des chrétiens qui vivons dans le passé, même si on est reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans le passé. J'ai personnellement vécu des moments incroyables avec Dieu dans mon passé. Je vais vous en parler tantôt, d'ailleurs. Mais j'ai soif pour plus. Ma vie chrétienne n'est pas dans le passé. Ma vie chrétienne est aujourd'hui et dans l'avenir. Également, on peut se réjouir pour ce qui se fait partout ailleurs, mais on veut prier et travailler pour établir son royaume ici. Merci Seigneur pour ce qui se passe partout dans le monde. Mais Seigneur, ici à Drummondville, Seigneur, ici au Québec, Seigneur, touche nos villes, nos villages, ici, maintenant, au Québec. Merci pour ailleurs, mais on prie pour ici. On prie pour ici. Oui, on peut prier pour ailleurs aussi. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Nous ne sommes pas passifs dans un réveil. Nous devons répondre à Dieu par la prière, la repentance et l'obéissance. C'est Dieu qui touche notre cœur, mais comment on réagit après quand Dieu nous touche? Comment est-ce qu'on se laisse emporter par ce que Dieu veut faire dans nos vies? Ça, c'est juste quelques petites phrases pour nous mettre un peu en appétit. Mais ça ressemble à quoi à un réveil? On va regarder ensemble dans Actes 2, à partir du verset 37. Et on va voir si Jésus, à ce moment-ci, est mort, il est ressuscité, il a annoncé à ses disciples d'attendre que le Saint-Esprit descende. Ils sont là, ils sont dans la chambre haute, et le Saint-Esprit descend parmi eux. Et il y a des dons spéciaux qui se passent, ils se mettent à parler en d'autres langues, et notamment des langues que des gens qui sont là pour une fête à Jérusalem comprennent. La Bible dit qu'ils entendaient des louanges de Dieu dans leur propre langue, alors qu'ils venaient de partout, de la terre. Et là, ils sont là comme ça, et c'est spécial ce qui prend place. Il y a des gens qui se moquent de ce qui prend place. Il y en a d'autres qui sont touchés, interpellés. Et là, Pierre va se mettre à prêcher. Hein, la première prédication officielle de l'Église, pas Nouvelle Vie, mais de l'Église chrétienne, par Pierre. Et là, il va prêcher, il va parler de Jésus. Et là, on arrive au verset 37. « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. » Et quand Jésus parle à nos cœurs à travers une prédication ou à travers sa parole, il y a des moments comme ça où on est vivement touché. Dans le grec, on peut parler ici de le cœur percé ou piqué. As-tu déjà vécu un moment où Dieu touche ton cœur d'une façon puissante? Et là, ici, les gens sont touchés, les gens sont interpellés. Et là, ils sont touchés, ils sont interpellés. Ils ont le cœur vivement touché. Ils disent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? Comment on réagit lorsque Dieu nous touche? Comment on réagit lorsque Dieu nous parle? » Et Pierre leur dit, « Changez d'attitude ou encore repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera jusqu'à Drummondville en février. Et bientôt le printemps, merci Jésus. » Et par beaucoup d'autres... Spécial, ma Bible, il y a toutes sortes de mots demain. Verset 40. « Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés ce jour-là, et le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. Laissez-moi vous dire, ça ressemble à un réveil. Ça ressemble à un réveil. Je pense que c'est un réveil spirituel authentique. Et ce qu'on voit là-dedans, en réaction au mouvement de Dieu, ils vont demander « Que ferons-nous? » Et la bonne réponse, c'est « Repentez-vous. » La bonne réponse, c'est « Changez d'attitude. » Il y a un réveil biblique est toujours accompagné d'un mouvement de repentance. Quand c'est réel, quand c'est Dieu qui touche, ça va au-delà de la louange. Ça va au-delà de la prière. C'est que quand on prie, on s'approche de Dieu, Dieu nous touche, Dieu nous parle. Qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur? Il nous dit « Repends-toi ». Il dit toutes sortes d'affaires. Il dit qu'il nous aime, qu'il nous pardonne. Il dit qu'il a des plans pour notre vie. Mais le Seigneur nous dit aussi, dans ces temps spéciaux de réveil, « Repentez-vous. Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Aujourd'hui, on veut l'action de Dieu. On veut... Moi, je crois que nous vivons un moment de réveil ici dans notre Église et que nous sommes sur le point de vivre encore une autre phase de cette action de Dieu dans cette Église. Mais notre cœur ce matin devrait être « Seigneur, je suis ouvert à ce que tu veux me dire. Tu veux que je me repente, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Je ne veux pas juste venir à l'Église pour jouer à l'Église. Je vais venir à l'Église, je vais ouvrir mon cœur, puis Seigneur, tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux pointer ce que tu veux dans ma vie. » Je suis ouvert. Mon cœur est réceptif à ta parole. Tu veux un cœur qui vit un réveil spirituel et un cœur qui dit, Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Et un cœur qui dit, Seigneur, change ce que tu veux en moi. Et un cœur qui dit, Seigneur, je suis prêt à abandonner n'importe quoi que tu vas me demander d'abandonner. Un petit peu moins d'amen. Mais, c'est ce que le Seigneur veut faire. Le Seigneur vient, puis il ne vient pas nous pointer avec jugement, il vient, c'est toujours avec plein d'amour, mais il veut venir nous transformer, nous changer. Un des textes qui démontre bien ce cœur qui attire le réveil, c'est dans le psaume 51, où David va se repentir d'une façon incroyable, et je vous lis un extrait aujourd'hui, juste pour qu'on puisse se mettre dans ce cœur, dans cette attitude. Seigneur, fais qu'est-ce que tu veux, change-moi, purifie-moi. Il dit ceci, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et en fait j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hyssope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Est-ce que c'est ton cœur ce matin? Est-ce que c'est ta prière ce matin? Est-ce que tu as un cœur qui est comme ça devant Dieu? Qui dit, Seigneur, pardonne, purifie, fais ce que tu veux en moi. Il y a des gens, vous ne vivrez jamais de réveil parce que vous ne priez pas ça. Vous ne vivrez jamais cette intensité, cette communion avec Dieu parce que votre cœur est fermé, il protège et garde des péchés, des mauvaises habitudes, des façons de penser qui déplaisent au Seigneur. Puis vous le savez, mais vous jouez le jeu de la vie chrétienne, mais ce n'est pas un jeu. Le Seigneur nous appelle à une sincérité comme ce texte. Sincérité. Fais ce que tu veux en moi. Quand j'étais adolescent, j'ai vécu un réveil personnel incroyable. Dieu m'a sauvé et m'a touché de façon puissante. Ça a duré des années. Je pleurais dans la présence de Dieu. J'étais impacté par le Seigneur. Je vivais des moments de prière cœur à cœur avec Dieu qui duraient des heures. Un moment spirituel fort que je vivais quand j'étais jeune. Et alors que je vivais cela, que j'étais tout jeune, j'étais en secondaire 1, le Seigneur a commencé à parler à mon cœur pour la repentance. Et je n'avais pas de grande dépendance de drogue depuis 40 ans, non, j'étais en secondaire 1. Mais le Seigneur est venu et il a fait du ménage dans ma vie. Hein, ce n'est pas des gens qui m'ont dit « Ah, change ça, ça, c'est pas correct, nanana. » Je me rapprochais de Dieu et Dieu me parlait. Avez-vous vécu ça? Tu des chrétiens dans ce lieu, que lorsque tu t'es converti, lorsque tu as donné ton cœur à Jésus, dans son amour, le Seigneur t'a purifié, il a enlevé des affaires, il a enlevé des morceaux, il a changé des choses. Et il a changé plein de choses dans ma vie. Une des choses qui a changé, c'est qu'en secondaire 1, au départ, j'étais plutôt... En fait, je ne parlais pas vraiment ou pas du tout de Jésus, ni de l'Église. Donc, quand on arrivait lundi matin, puis on arrivait à notre case, puis il y avait les cadenas, tu sais, ça c'est... Puis les cases, puis tout le monde a la face du lundi matin en école secondaire, c'est-à-dire... Et là, quelqu'un me demande, « Ah, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? »« Ah, oh, j'ai joué avec mes amis, j'ai fait du sport, non, non, non. » Puis, m'emmener le Seigneur a pointé dans mon cœur, « Mais pourquoi tu dis pas que t'es allé à l'église? » J'étais en secondaire 1, je veux juste survivre. je veux pas me faire battre par le... trop grand secondaire 1 qui est à côté de moi. Non, je ne vais pas dire ça, que je vais à l'église, que je suis chrétien, que j'aime Jésus. Ah, pas passé pour un bizarroïde déjà. Regarde comment ils traitent l'autre bizarroïde là-bas. Oh, tente pas, moi, de me faire enfermer d'une case. Fait que là, je me rapprochais de Dieu, j'ai vu un moment avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit... Je veux que tu t'affiches publiquement comme un chrétien. Là, j'étais tout jeune, 12, 13 ans, pas encore de barbe ici. Hein? C'est comme ça qu'il change. Le Seigneur m'a dit, je veux que tu sois fier de moi. Et là, j'ai pris mon agenda. Vous rappelez-vous, dans l'ancien temps, les agendas? Hein? Il en donne ça encore au secondaire? Ah oui. Fait que moi, c'est un agenda vert, vraiment pas beau, là, avec l'année écrite dessus. Et il y avait des petits trucs que tu arrachais, là, les petites pages, là, pour suivre les bonnes journées. C'est encore demain? Ouais, OK. Et là, tout le monde décorait son agenda selon les groupes de musique qu'il aimait, les sportifs ou peu importe, là. Et moi, j'avais écrit en gros « Plus jamais de honte ». Je ne sais plus où cet agenda-là, mais « Plus jamais de honte ». Et mon réveil personnel avec Jésus, ma connexion avec Dieu a fait en sorte que le Seigneur a pointé quelque chose dans ma vie et je suis devenu, du jour au lendemain, vraiment, là, ma mère a ri, là, du jour au lendemain, je suis devenu quelqu'un qui était fier de Jésus. Je suis devenu quelqu'un qui s'affichait comme chrétien. J'ai vécu toutes sortes d'histoires au secondaire. Je vous conterai ça à un moment donné autour d'un bon café. Toutes sortes d'histoires où j'ai pu parler du Seigneur, prier pour du monde, parler devant des classes. J'ai vraiment vécu un secondaire incroyable, mais ça a commencé par Dieu qui touchait mon cœur et qui a pointé quelque chose et qui a changé quelque chose en moi. Ce matin, qu'est-ce que Dieu pointe dans ta vie? Ne dis-le pas à voix haute, là. Qu'est-ce que Dieu pointe? Qu'est-ce que Dieu voudrait t'amener à changer, à abandonner? Parce que lorsqu'on veut vivre cette connexion avec Jésus, il faut être prêt à vivre cette repentance. Amen? Tu peux dire « ouch » ou « amen » ou n'importe quoi que ça te tente. Ouais, merci, merci. Donc, un réveil authentique, ça inclut toujours un mouvement de repentance. Aussi, quand on étudie les réveils dans l'histoire, ça commence souvent avec des gens qui se repentent devant Dieu, qui confessent leurs péchés parfois publiquement devant tout le monde, qui disent « Moi, je faisais ça, mais pardon Seigneur, change-moi Seigneur. » Et c'est un point de départ pour un réveil authentique. Vous êtes toujours là? Ça va? Vous me suivez même si je ne marche pas partout? Ça aiderait-tu si je fais ça, non? OK. Deuxième chose. On va aller dans Esdras, le premier chapitre, un autre endroit où il y a un réveil spirituel incroyable. Et deuxième chose qui se passe quand on s'approche de Dieu, quand on vit un réveil authentique biblique, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en nous, c'est une passion pour rebâtir la maison de Dieu. Voici ce que dit Esdras 1. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Il fit faire de vive voix et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem. Et le verset 4 nous dit ceci. Partout où il s'est installé, le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit, lui donneront de l'argent, de l'or et du matériel et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les lévites, tous ceux dont le cœur, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ici, on a un peuple qui a été déporté, qui est éloigné de Jérusalem, qui est éloigné. Son temple a été détruit, passé par le feu. Et là, Dieu va agir. Dieu va agir en utilisant un roi. Et ce roi-là n'est même pas chrétien, si on veut. Et ce roi-là va être utilisé par Dieu pour rassembler son peuple et pour rebâtir son temple. Et vous savez, il y a ce proverbe-là, Proverbe 21:1, qui dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Et ne sous-estimez jamais la grandeur et la puissance de Dieu pour agir à tous les niveaux qu'il le désire. Dans ce cas-là, il agit avec un des rois qui était le plus puissant de la planète Terre pour que son peuple revienne et pour que sa maison soit rebâtie. Et on voit dans le texte, dans la diapo précédente, on voit ici au verset 8, « Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. » Quand Dieu touche ton cœur, quand tu vis une connexion profonde, intime, puissante avec Jésus, inévitablement, Dieu va te donner un amour pour ce que lui aime. Un amour pour ce que lui aime. Une compassion pour ceux que lui a compassion. Tu vas te mettre à aimer les gens autour de toi. Tu vas te mettre à aimer les gens qui ne connaissent pas Jésus. Tu vas te mettre aussi à aimer ton Église. Tu veux savoir si quelqu'un vit un réveil personnel, est-ce qu'il aime son Église? Est-ce qu'il est au service du royaume de Dieu? Est-ce qu'il est là pour servir? Est-ce qu'il est passionné par l'Église? Ah ouais, oui. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va être en dehors de l'Église et qui va avoir l'air d'être en réveil, mais si tu es en dehors de l'Église, ce n'est pas un réveil authentique. Dieu t'appelle à aimer son Église parce que Dieu aime l'Église, parce que Dieu est mort pour l'Église. Il s'est livré lui-même pour l'Église. C'est sa passion. Le projet de Dieu, c'est l'Église. Est-ce que tu aimes l'Église? Est-ce que tu es passionné par l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que tu aimes l'assemblée des croyants? Est-ce que tu aimes être avec tes frères et sœurs? Quand Jésus te touche, c'est ce qui se passe. Un réveil authentique, c'est un réveil où nous sommes mobilisés pour bâtir le royaume. Ici, dans Esdras, le peuple est revenu et a été mobilisé pour rebâtir ce qui avait été détruit. L'ennemi se réjouit quand l'Église est détruite. L'ennemi de nos âmes se réjouit quand l'Église reste divisée, reste dans la critique, reste dans... où on se dévore, on s'entretue les uns les autres. L'ennemi se réjouit. Mais Dieu se réjouit lorsque son Église est unie. Et lorsqu'elle bâtit, lorsqu'elle s'occupe des pauvres, lorsqu'elle s'occupe des gens qui souffrent, lorsqu'elle est pleine d'amour, de compassion, d'accueil, le Seigneur se réjouit. As-tu une passion pour l'Église? As-tu une passion pour l'Église? Je t'invite vraiment à prier pour l'Église, à parler en bien de l'Église, à protéger l'Église par tes paroles, à bénir l'Église, à servir l'Église, à aimer l'Église, à être généreux de ton temps, de ton argent envers l'Église. Quand je vivais mon premier réveil personnel, comme je vous parlais tantôt, jeune adolescent, maintenant j'ai plus honte de Jésus, yeah! L'autre affaire que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est un amour pour mon Église. J'étais tout jeune et j'ai commencé à servir et m'impliquer. Mais pas à peu près. Je connais tous quelqu'un comme ça, là, qui fait tout ce qu'il peut. Je faisais tout ce qui existait, OK? Je chantais dans la chorale. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Pas de commentaires. J'étais impliqué aux acétates. Tous les 35 ans venant et moi, ils venaient me voir après, je vais vous expliquer c'est quoi. J'arrivais tôt et je plaçais les chaises. Je m'assurais, peut-être que c'est là que j'ai développé un toc aussi, mais je m'assurais qu'elles soient vraiment bien placées, à une distance égale les unes des autres. Ah, c'est peut-être de là que ça vient. Hey, c'est bon, la thérapie pastorale comme ça. À la fin aussi, je désinstallais les chaises. Le vendredi soir, j'arrivais, je plaçais un rideau qu'on mettait au plafond pour comme faire une séparation dans la salle, dans le grand sanctuaire. Donc, j'installais ça, un gros rideau pesant. J'étais impliqué, alors que j'étais ado, j'étais impliqué auprès des ados. Alors oui, ça se peut. Je m'occupais aussi de la prière. J'arrivais tôt, tous les vendredis, tout de suite après l'école, pour m'occuper de la jeunesse. Les dimanches, j'étais toujours là, toujours en train de servir. Est-ce que c'était lourd? Pas pantoute. Mon cœur vibrait pour l'Église. Je m'étais fait une liste de noms de personnes que je connaissais dans l'Église. Je priais pour eux. Je les appelais au téléphone. « Comment tu vas? As-tu besoin de prière? » Vous voyez le genre, OK? Quand Jésus touche quelqu'un, il lui donne aussi de l'amour pour l'Église. Il lui donne de l'amour pour l'Église. Je ne te dis pas de ne plus avoir de vie et de servir partout, partout, partout dans l'Église tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le Seigneur, par la suite, m'a appris l'équilibre, le repos, c'est tout ça, là, tu sais. Mais au départ, j'étais comme prêt à tout faire. Et aujourd'hui, peut-être que tu as besoin de retrouver une passion pour ton Église. Tu as besoin de faire la paix avec l'Église parce que peut-être que tu as vécu des difficultés, des blessures, des petites affaires que tu n'es pas d'accord. Telle personne a dit quelque chose, telle personne ne t'a pas regardé. Le pasteur ne t'a pas salué ce fois-là. Le pasteur, il prêche assis. Je fais des blagues, mais peut-être que tu as comme un petit quelque chose avec l'Église. Aujourd'hui, c'est le temps pour toi de faire la paix avec l'Église. Tu es l'Église. Tu fais partie de l'Église. L'Église a besoin de tout le monde. Elle a besoin que tout le monde prenne sa place. On passe à 2 réunions dans 7 jours, okay? Moins qu'à 7 jours. On a besoin que les gens s'impliquent, servent, partout. Il manque du monde qui s'implique encore. Donc, tu peux te servir avec nous, tu peux t'impliquer. Prends ta place, puis tu vas voir, c'est le fun de servir Dieu. Il y a un épanouissement à servir Dieu. Peut-être que tu cherches un sens à ta vie. Sers Dieu. Ça amène de la vie dans ta vie de servir. Le Seigneur, et aussi, ça va affiner ton caractère. Parce que tu vas servir Dieu avec des êtres humains. Différents de toi. Qui, des fois, vont aiguiser ton caractère. C'est parfait. Correct. On a tous besoin de ça. OK? Est-ce que je peux voir une main levée? Oui, on a besoin de ça. OK, là, attends, laisse-moi voir. Hey, come on! Plein de gens qui ne lèvent pas la main, là. Donc, un réveil authentique, ça vient qu'un amour pour l'Église, une prière pour l'Église, un cœur de passion, de compassion pour l'Église. Troisièmement, un réveil authentique, ça se transpose par une générosité extravagante. Tu peux pas être rempli de Jésus, puis retenir et garder ce que Dieu t'a donné. Impossible. Complètement impossible. On est encore dans Esdras, verset 68. Plusieurs des chefs de famille, lors de leur arrivée à l'emplacement de la maison de l'Éternel de Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la reconstruise sur ses fondations. Ils firent des dons pour ses travaux, en fonction de leurs moyens, de 61 000 pièces en or, 3 tonnes d'argent et 100 tuniques destinées aux prêtres. Donc, j'ai besoin d'une tunique aujourd'hui. Non, c'est vrai. Et il y a plein de places dans la Bible où on voit que le réveil est associé à des gens qui donnent, qui ne retiennent pas, mais qui donnent. Une petite phrase que j'ai écrite, ça n'apparaîtra pas à l'écran, mais « Le chrétien éteint retient, mais le chrétien éveillé déborde de générosité. » Le chrétien éteint retient. Mais le chrétien éveillé déborde de générosité. Et il y a des gens ici, ça fait longtemps que tu es chrétien, que tu connais Jésus. Tu connais bien le principe des dîmes, des offrandes. On t'a déjà enseigné sur ce sujet-là. Et d'autres personnes dans ce lieu, tu n'as jamais entendu parler du mot dîmes et offrandes. On le dit rapidement des fois, mais tu ne sais pas trop c'est quoi. Et ce matin, je vais faire une petite parenthèse juste pour expliquer c'est quoi les dîmes et les offrandes. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Je pourrais prêcher des heures là-dessus parce que la Bible est pleine de textes qui nous parlent de générosité, de dons, etc. Un des textes qui nous parle de tout cela, c'est dans Malachie, le 3e chapitre. Et ce n'est pas moi là, qui ai Malachie en ce moment. C'est un livre dans la Bible. Je ne peux pas m'en empêcher, je sais. Je m'excuse. C'est pas drôle, je sais, là. OK. Verset 6. Non, c'est... Je vais y arriver. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Quel texte incroyable! La dernière phrase, c'est un peu une description d'un réveil spirituel, vous êtes d'accord? Hein? Vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les fenêtres du ciel. Amen! Amen. Et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Woo! C'est ça un réveil. Un réveil, c'est un ciel ouvert, c'est des bénédictions en abondance. Le contexte, c'est Dieu qui reprend le peuple parce qu'il ne donne pas leur dîme. Puis qui dit, donne ta dîme et ton offrande, donne une partie de ce qui est à toi pour le royaume de Dieu, pour la maison de Dieu, et mets-moi à l'épreuve, puis tu vas voir si je ne vais pas ouvrir le ciel, puis si je ne vais pas te bénir. Et aujourd'hui, je nous invite tous, on veut vivre le réveil, je nous invite tous à vérifier, OK, mais est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme généreuse, généreuse? Est-ce que je donne? Est-ce que je participe financièrement à mon église, aux gens qui m'entourent, qui vivent des difficultés? Et je sais que j'ai moins d'amen et un beau silence en ce moment. Je vais continuer. Proverbe 3:9 nous dit, « Honore l'Éternel avec tes biens. » Et avec les premiers de tous tes produits. On peut honorer l'Éternel avec nos biens. On peut l'honorer en disant gloire à Dieu. On peut l'honorer de plein de façons. On peut l'honorer aussi en donnant fidèlement. 1 Corinthiens 16 nous dit ceci, en ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites-vous aussi, comme je vous l'ai prescrit aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le dimanche, mettre de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Ici, on voit, c'est une église qui est pauvre, qui recueille des dons pour prendre soin de chrétiens dans une autre ville qui, eux, sont encore plus pauvres. Et là, il y a plusieurs textes là-dessus où on voit comment ils s'organisent pour recueillir l'argent et pour prendre soin des autres. Mouvement de solidarité. Montre-moi un mouvement de solidarité authentique. Je vais te montrer une action de Dieu authentique. Dieu agit. Dieu agit au milieu d'un peuple qui a le cœur sur la main pour de vrai. Je pourrais lire plein de textes. Je vais en parler une autre fois dans l'avenir de l'Église. Mais de donner avec générosité, de donner avec cœur, de donner avec discrétion aussi pour ne pas être vu. Tout ça, c'est des principes bibliques puissants enseignés par Jésus lui-même, entre autres. Dans ce texte, on voit quelques principes. Hein? Une fois par semaine, Il y a une régularité. Le réveil, parfois, peut avoir l'air extravagant. Il peut avoir l'air, là, la louange qui monte tellement fort, un ciel ouvert, on a des visions, les dons de l'Esprit sont là. Et oui, il amène à tout ça. Mais le réveil aussi, c'est quand on donne une fois par semaine avec régularité, avec fidélité, qu'on donne au Seigneur. C'est spirituel. Qu'il mette de côté ce qu'il pourra. Hein, ce n'est pas de venir chercher l'argent de tout le monde. Tu mets de côté ce que tu peux en fonction de ses moyens. Ce n'est pas tout le monde qui va donner pareil. Tu donnes en fonction de tes moyens. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Oh! Quel texte de la Bible incroyable! Il y a le principe de la semence qui était évoqué au début. Par la suite, ça nous dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Ce matin, je t'invite à prendre une résolution personnelle en ton cœur, entre toi et Dieu. Que chacun donne sans regret ni contrainte. Que tu ne puisses jamais sentir de ma part ou de la part de qui que ce soit une contrainte de donner. Parce que quand on donne avec joie. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Jésus dirait aussi qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Oh! Vous êtes revenus. OK, parfait. Je pensais que vous m'aviez abandonné. Et la fin du texte est beau parce qu'elle nous dit donne sans regret ni contrainte, avec joie. Puis le texte nous rappelle que Dieu peut te combler. Il peut combler tous les besoins de ta vie. Oui. Dieu peut te combler dans tous les besoins de ta vie et même que tu en aies plus pour être généreux pour les gens qui t'entourent. C'est ça que ça dit le texte. Que tu es même en abondance pour toute œuvre bonne. Texte magnifique. Vous savez, à chaque semaine, on fait apparaître à l'écran cette diapo les 4 façons de donner. Et je la fais réapparaître, je ne vais pas le redire. Mais concrètement, tu peux répondre à ce message-là en commençant à donner. Tout simplement. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de pression. Mais pourquoi tu n'embarquerais pas avec nous dans ce qui se passe ici? Dans ce qu'on fait ensemble, de donner avec nous. Si tu veux aussi faire les choses de façon vraiment superbe, là, tu peux appeler à l'Église Nouvelle Vie, 646-2150, tu peux trouver le numéro sur Internet, et demande à parler à Joanne Kerry et dis-lui que tu veux avoir un numéro de donateur. Et de cette façon-là, on va comptabiliser ce que tu donnes et on va t'émettre un reçu pour les impôts à chaque début d'année. Vous savez, on passe bientôt à 2 réunions. On est une église. Je remercie le Seigneur pour le dynamisme qu'il y a ici, pour la vie qu'il y a dans ce lieu. Vous savez, notre cœur est plein de projets. On a fait une réunion en espagnol il y a quelques semaines de ça. On veut en refaire d'autres. On a des rêves pour rejoindre la communauté hispanophone de Drummondville. Est-ce que je peux entendre amen? On a déjà fait quelques distributions alimentaires dans le passé. On veut faire bien plus que ça. On veut faire bien plus que ça. On veut fonder un organisme humanitaire en collaboration avec l'Église Nouvelle Vie, avec Action Nouvelle Vie, pour vraiment faire une différence dans notre communauté. Tout ça arrive comment? Ça arrive quand l'Église donne. Elle vient d'où cet argent-là? Elle vient de nos poches. Elle vient de mes poches à moi et à nous. Un jour, écoutez, là, on est plein ce matin. La semaine prochaine, on va réduire un peu dans chacune des réunions, mais dans le but d'augmenter à nouveau et d'être plein à nouveau encore. Mais un jour, Dieu voulant, pourquoi pas avoir un bâtiment qui est à nous? Ici, c'est, on loue ici, mais... À chaque fois que je parle de 2 réunions avec mon ami Eric, il me dit ah, tu vas voir, ça va se remplir vite, tu vas voir. Et j'aime la foi de mon ami Eric et j'ai la même foi. Mais lui, il a une coche de plus que moi. Oh, je te dis si. Il y a une prison à Drummondville. Hein? Il y a notre ami Yvon qui s'implique là parfois, mais on pourrait faire plus. On pourrait faire plus pour ces prisonniers-là qui sont ici, chaque côté de nous autres. Puis ça, je vous nomme juste quelques petites affaires, là. Mais notre cœur déborde d'idées. Notre cœur déborde d'idées de ce qu'on pourrait faire. Mais on peut juste faire dans la mesure à notre foi et dans la mesure à nos dons. Donc, même si tu ne donnes pas beaucoup, même si tu donnes un peu, peu importe combien tu donnes, si tout le monde, on se met ensemble et qu'on participe financièrement, on va pouvoir faire une grande différence dans notre Église. Et dernier texte sur ce sujet-là, dans Actes 2, 42, le même texte que tu débutes, qui nous décrit à quoi ressemble un réveil. Vous allez voir qu'il y a la solidarité et la générosité dans un réveil. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et souvent, on s'arrête là puis on se dit, un réveil, ça ressemble à ça. Il y a des miracles, il y a des prodiges. C'est wow! Et oui, on veut ça. Est-ce que vous voulez ça, des miracles, des prodiges, des guérisons physiques, des gens, des conversions incroyables? Je prie pour ça tous les jours de ma vie. Et je prie ce matin qu'il y en ait dans ce lieu. Mais regardez le reste du texte qui est aussi important que la première partie. Verset 44. « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. » Et on voit cette générosité, ce partage, des gens qui vendent des biens, qui partagent avec d'autres, qui mangent ensemble. On voit une abondance de quoi? Une abondance d'amour. Une abondance de liens les uns avec les autres et une générosité et une solidarité extraordinaire parmi ce groupe-là. Et là, j'aurais pu utiliser toutes sortes d'illustrations. Vous savez, par la grâce de Dieu, j'ai plein d'histoires sur la générosité financière, des histoires drôles. Je me suis fait donner dans ma vie 2 voitures. J'ai déjà donné mes souliers à un moment donné à quelqu'un. J'ai déjà pris soin d'un itinérant à un moment donné quand j'étais adolescent. J'ai vécu plein d'affaires. On m'a donné des enveloppes de cash. J'ai vécu toutes sortes d'affaires reliées aux dons et à la générosité, des miracles incroyables. Vous pourriez applaudir le plafond lèverait tellement ça serait incroyable. Mais j'ai choisi aujourd'hui de vous conter quelque chose qui est tout aussi miraculeux. Et c'est la fois où j'ai eu ma première job. Vous rappelez-vous de votre première job? C'est quoi ta première job? Hein? Est-ce que quelqu'un qui veut le dire à voix haute? 2-3 personnes, là. Votre première job? McDo? Les canneberges? C'est ta faute, ça. OK. C'est bon, les Atacas. Journal de Montréal. OK. Quelqu'un d'autre? Dunkin. Oh, Dunkin. Oh. Oh, ça, c'est de Jésus, ça. Des bons beignes. Moi, ma première job, c'était de faire du ménage. Donc, je faisais du ménage dans des... ma femme est très contente que c'était ma première job. Je faisais du ménage dans des entrepôts, dans des après-constructions, des fois dans des commerces. Et c'était quand même correct, là. Je faisais du ménage. Et lorsque j'ai eu ma première paye, j'ai fait de quoi de complètement fou. Là, t'es capoté. J'ai reçu une paye de première job. C'est pas d'habitude super élevé, là. C'est pas des millions de dollars, là. Et là, vous en reviendrez pas. Mais j'ai pris 10% de ce que j'ai reçu, puis je l'ai donné à l'Église. Wow. Depuis ce jour-là, toute ma vie, j'ai donné au moins 10% de tous mes salaires, de tous mes revenus à l'Église, avec joie et plus. Et je ne fais pas ça pour me vanter, je fais ça pour vous dire que j'ai jamais manqué de rien et qu'il y a une joie dans mon cœur de collaborer, de contribuer au royaume de Dieu. Une joie immense puis je vais continuer jusqu'à temps que je meure à faire ça. Et ça, ce que je dis n'enlève pas tout ce que j'ai dit, c'est entre toi et Dieu, selon tes moyens, etc., sans contrainte. Mais je t'invite aujourd'hui à dire, Seigneur, c'est mon Église. J'embarque. J'embarque vraiment de tout mon cœur dans ce qui prend place ici. Amen. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. On va arriver à mon dernier point ce matin. Un réveil spirituel, au-delà de la ferveur dans la prière, au-delà de la ferveur dans la louange, au-delà, comme on voit à différents endroits dans le monde, ces moments de prière qui ne finissent plus, ces moments de louange qui continuent. Il y a un moment donné où ces moments de réveil qui sont au sommet de la montagne avec Jésus. Et le Seigneur veut nous toucher au sommet de la montagne et nous équiper pour que lorsqu'on redescend de la montagne, qu'on puisse servir avec son amour, sa compassion et son cœur. Et mon dernier point ce matin, c'est, je vais vous lire quelques versets qui m'ont touché lorsque le Seigneur me saisit lorsque j'étais adolescent. C'est une soif et une faim de Dieu. Un réveil authentique spirituel, c'est lorsque ton cœur a faim de Dieu. T'as faim de Dieu, t'as soif de Dieu. Ceux qui vont venir à la réunion d'11 heures, vous allez avoir faim quand je vais prêcher. Vous allez avoir faim, il va être midi, je vais prêcher, moi aussi je vais avoir faim. On va tous avoir un concert de ventre qui gargouille. Mais après ça, le dîner est encore meilleur. Là. Est-ce que tu as faim de Dieu? Est-ce que tu as soif de Dieu ça, aujourd'hui? Je vous lis quelques psaumes rapidement, mais après ça, on va finir en prière, on va finir dans la présence, dans la louange. On va laisser Jésus nous parler, nous toucher. Le psaume 42 nous dit ceci. « Comme une biche soupire. » Après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 57, 17. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entend ma voix. Psaume 63.